Et le journal est présenté par Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Hervé, bonjour à toutes et à tous. Un couvre-feu avancé à partir de 18h dès samedi dans les départements les plus touchés par la deuxième vague épidémique de Covid. C'est la principale annonce d'Olivier Véran, invité hier soir du 20h de France 2. Le ministre de la Santé va en discuter dès aujourd'hui avec les préfets, les agences régionales de santé et les élus.
Dans ce contexte sanitaire, difficile de se projeter sur la réouverture des bars, des restaurants et des lieux culturels.
Et le bilan de la fréquentation des salles de cinéma est sans surprise en chute libre, moins 70% par rapport à l'an dernier, année record certes, mais la pandémie a fait des ravages là aussi. Dans ce contexte inédit et pesant, les films français, surtout des comédies, ont attiré plus de spectateurs que les productions étrangères. C'est du jamais vu depuis 14 ans.
Le Parlement britannique désert, mais actif.
Pour voter aujourd'hui en visioconférence l'accord post-Brexit négocié avec les 27 la semaine dernière. À la une encore, des poubelles italiennes et des masques anti-Covid arrivés en Tunisie. La colère de tout un pays. Un vaste réseau de corruption serait derrière cette affaire.
Et puis à 7h13, la question du jour en compagnie du journaliste Mohamed Sifawi. Nous parlerons du projet de création d'un conseil national des imams mal parti en raison des déchirements autour de la valeur de la charte des valeurs républicaines.
En attendant de connaître l'impact précis des vacances de fin d'année et d'adopter de nouvelles restrictions sanitaires au besoin, le gouvernement veut instaurer dès 18h samedi un couvre-feu dans une vingtaine de départements du nord-est au sud-est de la France. Olivier Véran, le ministre de la Santé, a expliqué cette stratégie hier soir sur France 2.
Ce que nous écartons, c'est l'idée du confinement. Nous ne voulons pas confiner à ce stade, ni un confinement généralisé, ni un confinement local. En revanche, nous allons proposer une extension du couvre-feu qui, au lieu de démarrer à 20h, démarrera à 18h dans l'ensemble des territoires dans lesquels ça s'avérera nécessaire.
Une nouvelle carte de la France, donc, en cette nouvelle année, avec un couvre-feu anticipé, selon des modalités qui sont encore à discuter, Tara Schlegel.
Certaines régions sont beaucoup plus touchées que d'autres, a précisé d'emblée le ministre de la Santé. Grand Est, Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes et le département des Alpes-Maritimes en PACA. Une concertation commence donc dès ce mercredi à la demande du président de la République avec préfets, agences régionales de santé, élus locaux pour prendre des mesures supplémentaires mais uniquement au cas par cas dans les métropoles ou les départements où l'épidémie sévit trop fort. Ce sera donc un couvre-feu dès 18h. Plus largement en France, s'est félicité Olivier Véran, on a beaucoup testé, plus que dans toute l'Europe la semaine dernière, 3,5 millions de tests, d'où aussi cette impression qu'il y a plus de cas, 15 000 en moyenne nouveaux cas par jour, a dit le ministre, c'est beaucoup plus que l'objectif des 5 000 fixé au début du deuxième confinement par Emmanuel Macron. Voilà pourquoi on ne va pas pouvoir, dès le 7 janvier prochain, lever la totalité des restrictions, a-t-il prévenu. Donc probablement pas de décision pour le monde de la culture, ni les stations de ski en ce début d'année. Il faut attendre, a dit le ministre, qu'on voit l'effet de Noël et des rassemblements familiaux qui ont été autorisés, et l'effet du nouvel an, qu'il espère les plus faibles possibles. La France n'a pas eu à reconfiner en catastrophe avant Noël, comme nos voisins, a conclu Olivier Véran, parce que nous avons pris les bonnes décisions au bon moment. Il s'agira donc de couvre-feu localisé, enfin pour l'instant.
Suivre la situation épidémique au plus près, du terrain, une concertation avec les élus locaux. Les maires du Grand Est saluent la méthode Élodie Fauré.
Enfin des mesures à la bonne échelle, applaudit Éric Stroman, maire de Colmar. Depuis plusieurs semaines, il plaidait pour une gestion départementale de la crise.
L'échelle départementale me paraît l'échelle la plus adaptée. D'abord, la situation peut être très contrastée d'un département à l'autre. Et les préfets connaissent les élus, ils connaissent la situation locale. Titre d'illustration, au mois de mars, le Haut-Rhin a été un cluster très violent. Si à l'époque le préfet avait décidé de confiner dès les premiers signes le département, on n'aurait certainement pas connu ce taux de mortalité.
Colmar, préfecture du Haut-Rhin, l'un des départements qui pourrait être concerné par ce couvre-feu à 18h si la situation continue de se dégrader. Tout comme la Marne et Reims, où le maire Arnaud Robinet salue la concertation annoncée, même s'il aurait préféré une mesure immédiate.
Aujourd'hui, on a un taux d'incidence sans prendre en compte les réveillons de Noël, sans prendre en compte bien sûr le 31, qui est équivalent à celui que nous avons connu avant le deuxième confinement. À partir de là, je pense qu'il aurait mieux fallu agir immédiatement, c'est-à-dire dès aujourd'hui ou dès demain pour prévenir au lieu de subir.
Un délai de quelques jours justifié par Matignon, il devrait donner une vision plus fiable de la situation, de l'impact notamment des fêtes de fin d'année.
Des fêtes où les autorités appellent à la plus grande prudence, au respect des règles sanitaires. 100 000 policiers et gendarmes seront mobilisés demain soir pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Ils devront en priorité lutter contre les rassemblements non autorisés et les violences urbaines. C'est la consigne envoyée hier par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, au préfet. Un réveillon sans repas au restaurant, il y a un drame économique et social et bientôt un drame humain. Si les gens n'ont plus de lieu pour se distraire, alerte Bernard Marty, le président de l'Union des métiers des industries de l'hôtellerie de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il dénonce encore et toujours un deux poids deux mesures entre les restaurants d'entreprise, les cantines scolaires et les restaurants classiques interdits, eux, d'accueillir du public. Difficile, on l'aura compris, de se projeter au sujet de la réouverture des bars et des restaurants le 20 janvier. C'est ce qu'a dit le ministre de la Santé, Olivier Véran, hier soir sur France 2. La clause de revoyure pour les éventuelles réouvertures des lieux culturels et sportifs le 7 janvier est maintenue. Mais le gouvernement prépare déjà les esprits. C'est mal parti. Le conseil scientifique redoute, lui, une reprise incontrôlée de l'épidémie. Les salles obscures suspendues aux arbitrages de l'exécutif après une année bien sombre côté fréquentation. Une lueur d'espoir tout de même pour la production hexagonale dans le bilan annuel du Centre National du Cinéma. Les films français devancent les titres étrangers, Anne Lamotte.
Quand on regarde le tableau de la fréquentation des salles publié aujourd'hui par le CNC, le constat est rude. On compte plus de 17 millions d'entrées en février, le dernier mois pendant lequel les quelques 2000 cinémas fonctionnent normalement. Ensuite, c'est la dégringolade. Au mieux, au mois d'octobre, on n'atteint pas les 9 millions d'entrées contre plus de 20 millions l'an passé. Car quand les salles rouvrent le 22 juin, la capacité d'accueil des cinémas et l'offre sont particulièrement réduites. Certains blockbusters, comme le dernier opus de James Bond, on s'en souvient, préfèrent décaler leur sortie. D'autres, comme Mulan des studios Disney, choisissent carrément de court-circuiter les salles au profit de la plateforme de streaming. Et puis, il y a ces 162 jours de fermeture contre le CNC. Résultat, c'est quasiment une chute de 70% de la fréquentation par rapport à l'année dernière, année record, précisons-le. Et dans ce contexte inédit, inversion des tendances, ce sont les films français qui ont attiré le plus de monde, un peu plus de 29 millions de spectateurs, presque 3 millions de plus que les films américains. Ce qui n'était pas arrivé depuis 14 ans. Il faut dire qu'à la réouverture fin juin, quand la part de marché des films américains est divisée par 3, celle des films français est multipliée par 2. Ce sont eux qui dynamisent le marché, explique le CNC, qui précise que sur les 10 premiers longs métrages au box-office depuis le 22 juin, derrière Tenet de Christopher Nolan, on trouve 6 films français, 30 jours max, Tout simplement noir, Antoinette dans les Cévennes ou Adieu les cons, 6 films français, 6 comédies.
Et pour revenir sur le bilan annuel dans les salles obscures et sur les perspectives aussi pour l'an prochain, côté tournage notamment, Valérie Lépine, déléguée générale de l'Union des producteurs de cinéma, sera l'invitée du journal de midi et demi aujourd'hui sur France Culture.
France Culture, 7h08, le journal de Catherine Dutu. Crise sanitaire et inquiétude économique, c'est la double peine pour le Royaume-Uni.
Le pays a atteint hier un nouveau record, plus de 53 000 contaminations en une seule journée. Contamination au Covid, bien évidemment. Le nombre d'hospitalisations est encore plus important que lors du pic de la première vague au printemps. Le variant du coronavirus plus contagieux aggrave la situation et ce n'est pas l'unique préoccupation dans le Kent. Le jardin de l'Angleterre craint de se transformer en parking géant pour les milliers de camions qui arrivent par le sud-est du Royaume-Uni. Reportage à suivre dans le journal de 7h30. Les sauveteurs continuent à chercher des survivants du violent séisme qui a frappé le centre de la Croatie, rasant des maisons et faisant au moins 7 morts selon un bilan encore provisoire. Certains des 20 000 habitants de Prétinia s'apprêtaient hier à passer la nuit dehors sous la pluie et dans le froid par peur d'éventuelles répliques. Un scandale environnemental à présent et une question. Comment près de 300 grands conteneurs de déchets ménagers italiens sont-ils arrivés en Tunisie alors que le pays interdit l'importation de déchets et que des conventions internationales interdisent de se débarrasser de ces déchets? Un vaste réseau de corruption serait derrière cette affaire. La société civile et les associations écologistes tunisiennes exigent maintenant que ces déchets parfois dangereux soient renvoyés immédiatement en Italie. Le reportage en Tunisie de Maureen Mercier.
280 containers qui déclenchent la colère des Tunisiens. À l'intérieur, des déchets ménagers, des poubelles italiennes, parmi lesquelles des masques anti-Covid. L'activiste écologique Hamdi Houssem est atterré.
Ça me choque et on est indigné aussi. C'est comme lâcher une bombe atomique ou quelque chose pour nuire à l'environnement et la santé du peuple tunisien.
Le patron de l'entreprise tunisienne qui a importé illégalement ces déchets a disparu dans la nature. Au total, la justice a interpellé 12 personnes. Le ministre de l'Environnement a été limogé. Mais pour la société civile, il ne faut pas se contenter de faire tomber des têtes. Il faut changer tout le système. Parce que le risque, selon Inès Labias du FTDES, l'une des ONG les plus actives en Tunisie, le risque est que ces déchets soient enterrés en Tunisie dans le plus grand secret. Le pays est dépassé par ses propres déchets. La majorité aboutit dans des décharges à ciel ouvert.
C'est des mafias qui tiennent ce secteur. On ne peut pas savoir où ces déchets vont aller. Ils peuvent aller dans la nature, dans les forêts, dans les ouèdes. Partout, il y a des malades de cancer, il y a des piqûres d'insectes dangereux, il y a même des cas de décès, il y a de la stérilité chez les femmes.
Son message à l'Europe, plus spécifiquement à l'Italie, est clair.
Arrêtez de traiter les pays du Sud comme une poubelle. Il faut arrêter de nous envoyer vos merdes, vos ordures. Ça s'appelle le respect.
La société civile assure qu'elle ne lâchera pas le dossier jusqu'à ce que l'Italie récupère enfin ses déchets.
Maureen Mercier en Tunisie pour France Culture. Des tempêtes, des pluies historiques, sécheresse record, canicule après une succession d'événements météo extrêmes. 2020 sera finalement aussi l'année la plus chaude jamais enregistrée en France. Un nouveau signe criant, s'il en fallait, du réchauffement de la planète, Véronique Reberotte.
Décembre et ses températures souvent supérieures aux normales saisonnières n'aura pas permis d'inverser la tendance. 2020 est bien l'année la plus chaude jamais enregistrée en France. Un record plutôt prévisible qui clôture une année marquée également par une succession d'événements météo extrêmes, signe du réchauffement de la planète qui affecte aussi la France. Aucune saison n'a été épargnée. L'année 2020 a commencé par une série de 12 tempêtes du 28 janvier au 5 mars, celle baptisée Ciara le 10 février, avec des rafales de vent mesurées à 219 km/h sur la Corse, s'est classée parmi les 25 tempêtes majeures des 40 dernières années. L'été a été lui marqué par un important déficit pluviométrique, provoquant pour 2020 une nouvelle sécheresse agricole sévère. Deux canicules ont été enregistrées, la deuxième en août a été relativement longue, elle a duré 8 jours. À l'automne, des pluies diluviennes se sont abattues sur le sud-est du pays lors de 3 épisodes méditerranéens extrêmement violents, voire historiques, note Météo France, en particulier celui sans précédent qui a frappé les Alpes-Maritimes le 2 octobre. La tempête Alex, qui a durement frappé la vallée de la Roya, a fait 16 morts et causé pour 3,2 milliards de dollars de dégâts en France et en Italie, chiffrait récemment l'ONG britannique Christian Aid. À l'échelle de la planète, 9 des 10 années les plus chaudes appartiennent au 21e siècle et 7 à la dernière décennie.
Le temps de ce mercredi 30 décembre, pluvieux voire enneigé sur une bonne partie de l'Hexagone. Les températures seront comprises au meilleur de la journée entre 2 et 12 degrés du nord au sud, Hervé Gardette.
Et à 7h25, Catherine Dutu, le reportage de la rédaction nous emmènera à Rio de Janeiro. Malgré la crise sanitaire, les plages comme celle de Copacabana sont bondées de Brésiliens à défaut de touristes étrangers.